Bienvenue dans Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière.
Mais pas que, c'est les Benoît.
Salut Julien.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, ça fait bizarre de te parler à distance.
C'est vrai.
Ça va, voilà, on est en pleine période de confinement et puis on en a profité pour recevoir, si je puis dire, Yann.
Salut.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va, comment ça se passe le confinement pour toi ?
Écoute, ça va, faudrait bientôt que ça se termine quand même, hein.
On est d'accord. T'as des réserves en bière ?
Alors, justement, je suis là ce soir pour vous en parler, ouais.
Très bien. Benoît ?
Moi, j'ai quelques réserves et je suis bien content de recevoir Yann. Voilà, on va pouvoir parler réserve de bière et surtout brassage avec lui.
Sans faire nous-mêmes de la réserve.
Voilà, un peu l'indépendance, tu vois, le côté survivaliste de la chose.
Côté roots.
On va faire un premier épisode, là, on va parler brassage. Ensuite, on va parler matière première avec comment produire son propre malt et ensuite faire pousser son houblon, je pense.
Ah ouais, à ce point-là. On se lance dans la culture.
Moi, je fais partie des gens qui pensent que le confinement va durer, donc je préfère être prêt à tout.
Bravo.
Je peux être privé de liberté, mais pas de bière.
Très bel esprit. Mais justement, les gars, moi qui brasse pas, je voulais savoir ce qu'il vous fallait en fait comme matos.
Alors déjà, c'est un tort de pas brasser, voilà.
Ok. Hein, ça,
ok.
Ça,
ouais, non, mais on met les choses au clair.
Moi, je suis d'accord avec Yann.
Ça, t'en profites parce que t'es loin.
Non.
Tu t'en profites
c'est
parce que t'es loin.
C'est ça. Et t'es plus costaud que moi. Alors, je fais attention. Alors, en matos, en fait, il y a plusieurs solutions. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler des kits qui sont en vente, voilà, un peu partout sur les différents sites. Il y a Beemaker, il y a Saveur Bien, Brewdog en fait. Enfin, voilà, il y en a pas mal. Donc, ces kits-là ont l'avantage souvent au départ de te fournir un petit peu de matériel. Et au final, à la maison, il va te falloir en plus une casserole et un peu de flotte, quoi. En gros, ce que tu devras rajouter toi-même. Après, il y a d'autres techniques qui sont déjà un peu plus lourdes, mais qui restent quand même assez légères en termes d'achat, parce que voilà, forcément, il y a des choses à acheter, donc il faut, comme dit, une des casseroles, des seaux pour faire tes transferts, pour faire ta fermentation, quelque chose pour mélanger, une balance de cuisine. On va retrouver pas mal de choses qu'on a déjà à la maison, à part par exemple un moulin pour concasser ton grain, sachant que tu peux aussi l'acheter déjà concassé.
Quand tu parles de grain, tu connais
ces
herbes.
C'est ça, effectivement. Les kits ont cet avantage au départ de te fournir le matériel pour brasser et la matière première.
Ok.
On dit toujours basiquement la bière, c'est quoi ? C'est de l'eau, du malt et du houblon.
C'est ça, et un peu de levure aussi.
C'est ce que j'allais dire. Ouais, on dit toujours c'est trois ingrédients, mais en vrai, il y en a quatre.
On parle souvent de trois ingrédients à la base parce que finalement, la connaissance de la levure est assez récente dans l'histoire. On l'a détectée un peu plus tard avec notamment les travaux de Pasteur, etc. Donc voilà, dans l'imaginaire collectif, c'est souvent la levure qu'on oublie. C'est un élément sans lequel il n'y aurait pas d'alcool, il n'y aurait pas de bulles. Enfin voilà, c'est un élément central, quoi. Sauf qu'à l'époque, c'était naturel. Ça venait un peu par la volonté divine, donc peu conscience de cet ingrédient en plus, quoi.
Ouais, avec notamment tout ce qui est fermentation spontanée qui reviennent un peu à la mode.
C'est ça. Aujourd'hui, on a réussi à détecter ce que c'était, à parfois aussi le fait que ce soit des levures sauvages, elles sont de moins en moins sauvages à certains endroits ou dans certaines bières. On en a.
Qu'est-ce que tu appelles sauvage ?
En fait, des levures sauvages, c'est au moment de ta fermentation, tu vas ouvrir ton seau de fermentation, ta bière va être à l'air libre par rapport à des levures que tu vas maîtriser, tu vas attendre que les levures qui sont dans l'air vont venir fermenter ta bière.
D'accord, ok. C'est sans ajout d'un autre.
Alors pas d'ajout manuel, en fait, pas d'ajout humain. C'est l'air qui va ramener les levures qui sont naturellement autour de nous dans notre environnement. Et c'est pour ça que certaines bières peuvent être faites qu'à un seul endroit. Parce que cette levure-là est
propre à l'environnement.
Ouais, c'est ça.
Voilà, moi je pense tout de suite à Cantillon, par exemple, pour parler d'une des plus célèbres.
Absolument. Ça dépend de la saison, ça dépend du lieu, etc. Enfin voilà, l'environnement, c'est pas juste un lieu, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour. Ça peut aussi jouer avec la chaleur. C'est
la température de la pièce.
Ouais.
D'ailleurs, le réchauffement climatique qui inquiète pas mal justement Cantillon par rapport aux conditions de fermentation.
Ouais, c'est ça. Forcément, les choses vont évoluer, les choses évoluent déjà d'année en année, les cuvées sont différentes d'une année à l'autre parce que voilà, les conditions changent, quoi. Si je voulais aller en forêt dans les Vosges du Nord faire une bière, tiens, c'est une bonne idée, à levure sauvage, je pourrais, Mais il y a de fortes chances que l'année prochaine, ben, ça ne serait pas la même, quoi. Parce que les choses évoluent.
C'est pas quelque chose de maîtrisable.
C'est ça, c'est ça. C'est tout l'intérêt aussi hein, de ce jeu-là, quoi.
Bien sûr.
Ça peut aussi être un choix, moi je pense, à par exemple la brasserie Ammonite, où justement le lieu où Simon, le brasseur, élève ses bières, et a été vraiment déterminant. Lui, il est parti d'une ancienne grange. Et justement, pour avoir des levures qui seraient contenues, entre guillemets, dans le lieu, il y a aussi cette réflexion du lieu de ta brasserie et qui sera souvent difficilement transposable.
C'est ça. Des levures spontanées dans une cave avec des champignons, je ne suis pas sûr que ça donne le même résultat que dans un lieu un peu plus sain, même s'il ne faut pas qu'il soit complètement recouvert de gel hydroalcoolique. Là où tu n'auras plus rien du tout. C'est pas un labo, quoi. Quand ils n'ont pas un labo où ils font leur bière. Bah, sinon, leur bière, elle ne serait jamais fermentée.
Donc, bon, là, on est tout de suite allé très très loin dans un sujet, c'était la levure. Mais on est d'accord, je reviens juste sur le brassage amateur. Donc, on est d'accord qu'en termes de matos,
c'est faisable.
Il n'y a rien de fou.
Il n'y a rien de fou.
Et donc, en termes d'ingrédients, maintenant, on a dit la levure.
Est-ce que je peux revenir juste un peu au matériel? Il y a un truc qui est important à dire aussi. Moi, ma démarche a été, on a fait un stage avec des potes il y a quelques années maintenant. On a offert ça à un ami et on s'est dit on va pas le laisser seul. Ça nous a tous bottés et donc on s'est acheté un peu de matériel en groupe, ce qui nous a permis aussi au début de brasser en groupe, ce qui était plutôt intéressant. Et donc en fait au fur et à mesure chacun s'achète une cuve supplémentaire, un peu de matos par-ci, un peu de matos par-là aussi, suivant ses envies, suivant son budget, etc. D'autres commencent seuls, forcément du coup le budget est un peu différent. Et il y en a aussi qui se lancent directement sur les cuves électriques. On voit ça de plus en plus souvent. Benoît, toi, pas sur quoi tu...
Les Klarstein, tout ça.
Voilà, c'est ça. Il y a Braumeister, il y a Klarstein, il y a Brumonk.
Le Grainfraser.
Ouais, le Grainfraser qui est là, un peu la Rolls. Il y a de plus en plus de machines de ce type-là qui existent, qui permettent en fait de tout avoir un peu en un. C'est une solution intéressante aussi.
Ouais, après, ce qu'on va gagner en général avec du matos un peu plus pointu, je dirais, on va gagner du temps et du confort d'utilisation finalement.
Tout à fait. Alors moi, j'aime bien ce côté un peu roots, de devoir porter la cuve, de devoir... Je suis moins sensible à tout ce qui est électrique. J'aime bien avoir mon petit brûleur à gaz et puis un peu galérer, quoi. Je trouve
un truc complètement artisanal.
Ouais, c'est ça. Je trouve que ça fait partie de l'apprentissage. Alors demain, je ne dis pas qu'une cuve électrique, ça m'intéresserait, mais aujourd'hui, je suis plus dans une démarche où une bonne vieille cuve avec un bon brûleur à paella, c'est parfait. En plus,
mais je pense que aussi ça te permet d'apprendre à maîtriser tous les paramètres.
Hein. Ouais, c'est ça.
C'est peut-être des choses que tu auras plus besoin si tu te lances dans quelque chose avec plus de matos, plus d'investissement, mais au moins tu sais que tu maîtrises.
Ouais, c'est ça. Et puis si je veux faire des paliers de d'empâtage, faut que j'ai mes bonnes températures par exemple. Avec effectivement la cuve électrique, c'est plus simple parce que tu mets 70 degrés, c'est parti pour 70 degrés, quoi. Moi, je suis là avec mon gaz. Alors, effectivement, c'est plus chiant. Ça, c'est sûr. Mais ça fait... Pour moi, ça fait partie du jeu, quoi. Et puis, j'ai appris comme
Écoute,
ça.
Écoute, on avait une fois brassé... C'est d'ailleurs ma seule expérience de brassage avec Benoît, un après-midi. Et puis, on était scotché au thermomètre pendant 3 ou 4 heures, quoi, tu vois. Et le truc n'arrivait pas à monter à 100, on n'arrivait pas à le porter à ébullition. On brassait dans quoi, de nouveau, Benoît?
Dans un stérilisateur.
Ouais, c'est ça. Et donc, stérilisateur, c'est 100 degrés. Et en plus, on l'avait, c'était chargé, quoi. C'était plein presque à ras-bord. Et on n'arrivait pas à maintenir la température, c'était affreux.
Je pense que c'est ça le problème qu'on a eu, en fait. Comme le stérilisateur, il n'est pas prévu pour chauffer 20 litres.
Ouais.
Autant sur l'empattage, je pense que le stérilisateur, ça peut être un bon choix sur du low cost, parce que des fois, t'en trouves pour 40-50 euros. Autant, pour la partie ébullition.
Oui, puis on a tapé beaucoup de litres.
Tu veux dire, on avait bu beaucoup de litres ou...
Non, même pas. On n'a quasiment pas bu. En la faisant.
Tu vois, là, clairement, tu as le stérilisateur. Au début, ça peut tout à fait être une solution. Tu démarres, tu essayes ça, c'est parfait, quoi. Après, effectivement, quand tu brasses 20 litres et plus, il vaut mieux que tu aies déjà un truc qui permette de monter en température assez rapidement et assez efficacement. Parce qu'effectivement, sinon, c'est très long et tu risques de te décourager, quoi.
Donc, du coup, voilà, là, on y est pour le matos. Maintenant, tes ingrédients, tu les choisis comment? Qu'est-ce que tu prends? Tu les commandes où?
Au début, tu vas un peu suivant ce que tu vas pouvoir lire. C'est ce que je conseillerais, en tout cas, d'essayer quelque chose d'assez simple. On a les smash qui sont, un bon exercice de de démarrage, hein, donc Simple Malt, Single Hop, donc un malt, un houblon, comme ça on ne s'embête pas avec des mélanges, etc. Mm-hmm. Ça permet déjà d'avoir un ressenti sur tes odeurs de grains, etc., tes odeurs de houblon, et savoir ce qui va en ressortir derrière. Tu peux commencer aussi par une IPA si tu as envie d'être sûr que ça fonctionne. Tu fous tout le
houblon. C'est la plus facile à brasser.
Disons que c'est une qui est plus facile à cacher des mauvais goûts, quoi.
D'accord, ouais.
En fait, okay, si tu satures en houblon, forcément, tu vois, tu te dis, bon,
c'est une IPA, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est une IPA, tu mets un peu de citra, et puis c'est bon, ça passe, quoi.
Tu fais un petit dry hopping, voilà. C'est un peu le maquillage.
Cache misère.
Ouais, parfois c'est un peu ça, quoi. Alors après, voilà, je veux pas dénigrer, hein, du tout, c'est pas du tout l'objectif. Après, la difficulté, c'est de refaire la même bière. Bon, bref. En tout cas, pour les ingrédients, ce que j'invite les gens à faire, c'est déjà de savoir ce qu'on veut boire. Il n'y a rien de pire que de brasser une bière qui est bonne, mais qu'on n'a pas envie d'ouvrir après la mise en bouteille, quoi. Faire une stout, juste pour faire une stout alors qu'on n'aime pas les stouts, ça a l'air con, hein, mais c'est une mauvaise idée, parce que ça va te rester sur les bras, tu vas dire, ouais, bon, bien j'ai sûr. Pas envie de m'y remettre, ouais. parce que c'est un peu rébarbatif, etc., quoi. C'est pour ça, commencer simple, commencer sur des houblons, même si ça a l'air un peu classique, etc., mais voilà, un bon citra, effectivement, pour te faire une IPA que tu vas boire sur ta terrasse ou sur ton balcon en été, c'est parfait pour démarrer, quoi. Pas essayer d'aller trop dans la complexité. On en reparlera tout à l'heure sur le choix des recettes et sur des exemples qu'on peut avoir. On a par exemple Brewdog qui publie en ligne l'ensemble de ses recettes. Alors, c'est disponible en PDF, hein, gratuitement sur Internet. Vous pourrez le retrouver sur mon blog, n'est-ce pas? Abonne-toi.
On en reparlera.
et donc, on retrouve leurs recettes. Alors, souvent, il y a 15 houblons différents qui sont utilisés, il y a 10 malts différents. Toi, tu es là, tu as juste envie de faire une punk IPA, très simple, etc. Tu es face à ce truc, c'est un peu compliqué. Donc, faut pas hésiter à simplifier les choses aussi. Sur ce que tu as, sur ce que tu peux avoir en stock, etc. J'utilise un site principalement pour créer mes recettes et pour faire le suivi de mes brassins. Ça s'appelle Little Bock. Donc il y a une version gratuite, mais qui est très très ouverte, hein, et une version premium. C'est Mickaël Ducré, si je ne me trompe pas, qui a créé ce site, qui a une forte communauté derrière, notamment il y a un groupe Facebook qui est super actif, où les gens échangent pas mal sur leurs recettes, sur leurs expériences. Et c'est un site qui vraiment permet de monter tes recettes, de les suivre, de les partager aussi.
Je suis sur le site, ouais. Justement. Il y a 4300 recettes publiques.
Voilà.
Je trouve ça cool.
Ouais, c'est plutôt
tout
bien.
Partage.
Tu peux, copier une recette aussi. Si tu dis, tiens, celle-là, elle peut, je cherche un style, je le connais pas trop, je sais pas trop ce qu'on met dedans. Je pars sur ce style, voilà, je vais faire une Red Ale, par exemple. Je la copie et voilà, suivant les houblons que j'ai envie d'avoir dans ma bière, etc., je l'adapte. Et donc, c'est aussi ce côté un peu partage des brasseurs amateurs qui est super agréable. Mais ça, c'est lié aussi à la bière artisanale de manière générale. Les brasseurs, c'est des gens qui partagent beaucoup, c'est des gens passionnés, et dans le brassage amateur, je trouve qu'on ressent les mêmes, la même dynamique, quoi. Rien que pour ça, voilà, d'être un peu dans cette démarche, je trouve ça fort. Donc voilà, Little Bock, c'est vraiment un site qui est très bien pour ça, pour faire ses suivis, que ce soit en débutant ou un peu plus confirmé d'ailleurs, parce qu'on s'appuie aussi on peut s'appuyer sur des expériences d'autres.
Et puis le site est plutôt bien fait, même jamais on veut créer sa recette. On peut très facilement, en rentrant les informations, enfin les ingrédients qu'on a, créer sa propre recette, même sans de vraies connaissances finalement, puisque le logiciel va permettre de calculer avec des densités, tout ça qui sont théoriques, qui peuvent te donner une idée de ce que va donner ta bière en termes d'alcool, d'amertume, ce genre de choses.
Tu vas aussi là-dessus toi, Benoît ?
J'avais demandé à Yann un peu ce qu'il me conseillait comme solution gratuite justement pour essayer de structurer un peu mes brassins, et je suis allé sur le site et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment didactique, plutôt simple à utiliser.
Ouais, pour finir, en fait, c'est en plus de ça, le site est évolutif, quoi. Mais clairement, c'est pas souvent, voilà, moi je bosse dans le numérique, on dit oui, ce site est évolutif, en fait, il l'est jamais. Là, pour le coup, ça avance, Mickaël est vraiment à l'écoute de la communauté, c'est vraiment un site que je conseille pour la création des recettes, vraiment. On a des bouquins qui peuvent être inspirants, j'en ai un sous les yeux là, qui est plutôt pas mal aussi, c'est Je réussis ma bière, un petit bouquin qui sera parfait à côté de la cuve de brassage, pour démarrer, et même un peu plus tard, c'est de Corentin Le Talec et Brie Pérez, et donc voilà, là on retrouve toutes les étapes de brassage, les conseils, des petits zooms assez sympas sur des particularités à connaître. Et il donne aussi des exemples de recettes. La Bible du brasseur, c'est le livre How to Brew de Palmer. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
Je crois que je l'ai celui-là quelque part.
Ouais, alors il est en anglais, il est en train d'être traduit par la communauté du site Brasseur Amateur. Donc pareil, ce site, c'est aussi une mine d'or, pareil, avec une grosse communauté derrière.
J'ai tendance à plus aller sur Facebook qu'aller sur le forum, à tort, parce que le forum, c'est vraiment là où se trouvent les informations hyper intéressantes.
On a aujourd'hui, avec Internet en plus, une ouverture et un accès au savoir qui est absolument phénoménal.
Donc là, je résume, on a le matos, les ingrédients, les recettes. Comment tu commences ?
Moi, ce que j'aime bien dans le brassage amateur, c'est qu'en fait, on fait comme les pros, quoi. On a exactement les mêmes étapes que les pros, quoi. En gros, on va d'abord devoir concasser notre malt. On va le passer dans un moulin, dans un concasseur. On va pas en faire de la farine, mais on va casser le grain. Qu'ensuite, on va mettre en empattage dans de la flotte. On va faire en gros une grosse tisane, grosse tisane de grain.
Combien de temps ?
Alors, c'est environ une heure. Pendant cet empattage, on brasse. En fait, c'est vraiment le mouvement avec le fameux fourquet. Ensuite, on va passer à de la filtration. On va en fait séparer le mou, tout ce qui est liquide, du grain. Le grain, on va avoir des drèches derrière.
Parce que toi, à l'heure actuelle, un brassin, ça te prend combien de temps ?
Alors moi, je compte, je me bloque 6 heures à peu près. Comme ça, je suis bien. Je me presse pas, je respecte toutes les étapes. J'entends pas mal de brasseurs amateurs qui sont un peu impatients, qui vont un peu trop vite dans leur brassin, mais même après, sur les fermentations et tout ça. J'ai envie de dire que la bière, voilà, ça s'attend, quoi. Ça m'embête pas d'attendre une semaine de plus sur de la fermentation, me disant que voilà, je vais la laisser un peu reposer un plus, elle sera un peu moins levurée derrière, enfin... Voilà, j'hésite pas à attendre un peu plus parce que derrière, je me dis que ça peut rendre service à la bière. Et j'ai assez de bière pour tenir la semaine qui est en plus.
Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a effectivement deux écoles sur les brasseurs amateurs. Il y a les mecs qui vont faire ça avec le côté vraiment plaisir du process, avec l'attente. Et t'en as qui sont un peu des staccanovistes qui ont ce côté où ils brassent énormément, ils veulent que ça aille vite, ils veulent goûter alors que la bière, la première fermentation, elle est même pas finie. Enfin,
ouais, c'est ça. C'est ça.
Les mecs ouvrent le seau toutes les 5 minutes.
Ouais, c'est ça. Et puis après, t'as des surprises quand elles sont en bouteille, quoi. Enfin, les bières qui explosent, les machins. Enfin, ça arrive aussi parfois à cause de ça, quoi. T'as une fermentation qui n'est pas terminée. Bah, derrière, tu risques un peu de péter ta bière. Ouais, c'est un travail de fond et d'attente, quoi. Et de patience.
Bon, moi, je fais un peu parfois l'analogie avec, pour ceux qui, voilà, c'est un peu à la mode en ce moment de faire son pain soi-même. Bah, le pain, plus tu vas laisser reposer ta pâte et la laisser travailler tranquillement, souvent, meilleur il sera. Parce que si tu veux aller trop vite et tu laisses pas le temps à ta pâte de fermenter correctement, tu vas te retrouver avec un pain qui sera plat, qui aura une mie hyper compacte. Tandis que, voilà, si tu laisses vraiment le temps à ta pâte de se développer, souvent, tu vas avoir un meilleur résultat.
On est d'accord. Bah, le pain, c'est une bonne analogie, hein, parce que le pain, finalement, voilà, la bière, on l'appelle le pain liquide. Hein, c'est deux produits qui sont, mine de rien, assez proches, quoi.
Concernant l'empattage, toi, oui. T'es plutôt monopalier ou multipalier ?
Pendant le stage qu'on avait fait, on avait fait du multipalier. Ce qui était bien, c'était en...
Vous pouvez expliquer ce que
ouais,
c'est ?
En fait, ça va te permettre de sortir différentes caractéristiques de ton grain. Et donc, il y a ceux qui font tous les paliers, voilà, pour qu'il y ait vraiment tout qui sorte correctement. Et il y en a d'autres qui font un palier. Et puis après, on passe au rinçage et on n'en parle plus, quoi.
Moi, je pense que pour quelqu'un qui débute, vaut mieux démarrer en monopalier. Moi, c'est un peu le message que j'aimerais faire passer. C'est que finalement, brasser de la bière, c'est simple.
D'aller Benoît.
Ça peut être vrai. Ouais, non, mais c'est ça. Brasser de la bière, ça peut être très simple. Après, faire de la bonne bière, c'est plus compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer si on a vraiment un peu l'envie de le faire. On peut arriver à un résultat tout à fait correct sans forcément beaucoup de matos. Avec, voilà. Mais moi, je pense, dans un premier temps, il faut se lancer et voir quelque chose, voilà, le voir.
Step by step.
Ça, ouais, c'est ça.
Voilà, exactement.
C'est ça. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Alors, le premier brassin, il sera surprenant parce que voilà, c'est ta première bière que tu as fait, etc. Tu vas la boire, tu auras du plaisir rien que de la boire parce que ça aurait été la tienne.
Parce que c'est toi qui l'as fait de tes mains.
Ouais, c'est ça. Après, tu vas en rater, c'est clair, quoi. Mais c'est pas grave, en fait, j'ai envie de dire. Justement, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Tu dis, putain, mais où est-ce que j'ai merdé, quoi.
Ouais, tu recherches tes erreurs.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui va faire avancer les choses, quoi. Un truc qui marche trop facilement, en fait, perd vite de son intérêt, quoi.
Ouais, tu t'ennuies et t'as envie de passer à un truc un petit peu plus complexe, ouais, un petit peu plus dangereux. Ouais.
Ça, c'est important, non ? Prendre des notes pendant le brassage ?
Oui, tout à fait. Sur la recette, sur le process, de savoir quelle sera ta prochaine étape, de savoir la dernière fois, Ça, c'était compliqué à faire. Alors, je me prépare. J'ai longtemps brassé avec une cuve qui n'a pas de robinet. Rien que ça, ça veut dire que je dois porter la cuve qui a, par exemple, 30 litres d'eau bouillante dedans.
Ah, sympa.
C'est sympa. C'est un moment qui est un peu stressant. Quand t'es tout seul, ou encore plus, ça peut vite se casser la gueule. Mais ça se prépare, du coup, tu vois.
C'est quoi la plus grosse erreur que t'as pu faire sur l'un de tes brassins?
La plus grosse erreur, l'été dernier, j'ai brassé sans aucune préparation. J'ai un peu checké ce que j'avais dans le stock. Et en fait, je me suis rendu compte pendant le concassage du malt que j'avais pas de filtre. Et quand t'as pas de filtre, ben en fait, ben t'as tout ton grain, quoi. Enfin, il faut trouver une passoire, un filtre, un jus.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. Une question toute bête. Je pense qu'une passoire de cuisine fait tout à fait le taf.
Ouais,
non,
sauf que 5 kilos de grain à passer dans une passoire, c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment pas du tout fait pour ça. Donc j'avais trouvé
un 30 litres, c'est chaud.
Ouais, j'avais.
Ouais, c'est long, surtout.
Ouais, et puis, enfin, c'était vraiment pas jouable, quoi. Donc j'ai récupéré, tu sais, les anti-giclure sur les poils de cuisine, quoi. Mmh. Un genre de truc, je sais pas, ça a sûrement un nom.
En tout cas, c'est pas anti-giclure, ça, j'en suis sûr.
Ouais, c'est pas ça. Mais...
Ça m'aurait fait tiquer. Ouais.
Oui, donc j'ai utilisé un truc comme ça avec des trous beaucoup trop petits qui filtraient rien. Enfin voilà, il y avait. Donc déjà, j'y ai passé 2 heures et au final, ma bière, en fait, c'était de la flotte. Ça, c'était une grosse erreur, mais parce que je peux m'y prendre qu'à moi-même, c'est parce que je m'étais pas assez préparé. J'avais pris ça un peu à la légère, je me suis dit, allez, j'ai tout. Bah non, t'as pas tout. Donc voilà, c'était, je pense, la plus grosse erreur. Sinon, après, c'est des erreurs de recettes ou enfin voilà, des choses perfectibles.
Après, ça reste de l'amateurisme.
Oui.
Tu peux te tromper, il n'y a aucune pression, si ce n'est celle que tu te mets.
Il faut t'en mettre quand même un petit peu parce que sinon, c'est pas assez sérieux, quoi.
C'est quoi la bière dont tu es le plus fier?
C'est ma première IPA que j'ai fait qui s'appelait la Timothée Marcel. Dernièrement, j'ai aussi brassé avec un autre ami chez lui, pour le coup. On a fait une Red Ale qui était vraiment très bonne aussi. Et là, j'ai une IPA qui est en fût de fermentation que je vais mettre en bouteille dans quelques jours. Et j'ai beaucoup d'espoir sur celle-ci.
C'est vrai?
Ouais, j'ai pas mal d'espoir là-dessus.
Tu utilises plutôt de la levure sèche plutôt que
ça.
De la levure
ouais,
liquide?
Ouais, c'est ça. J'ai pas de matériel pour faire vivre mes levures sur le long terme, en fait. Hein. J'achète des petits sachets de ces 11 grammes. Ça me permet aussi d'alterner sur des fermentations hautes, des fermentations basses, sur d'autres types de levures, jusqu'au jour où je trouverai les levures exactement les levures que je veux, quoi. Les bouteilles, alors moi, les bouteilles, je récupère les bouteilles des bières que j'ai déjà bu. Alors, ça prend un peu de temps.
Ça, c'est le bel esprit, ça.
Ouais, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'eau. Mais voilà, c'est dans le principe de réutiliser...
Après, ce qui est beaucoup utilisé chez les amateurs aussi, c'est les bouteilles type Fischer.
Ouais, ouais. Là, effectivement, là, tu te fais l'économie de la capsule et de l'encapsuleuse aussi. Voilà, c'est aussi un investissement à avoir au début. Si tu augmentes en quantité, souvent sur les premiers kits, etc., t'as les petites capsuleuses un peu papillons comme ça, là. C'est pas super ergonomique, alors ça fait le taf hein, sur les premiers. Après, t'as vite envie de passer à un truc un peu plus costaud, quoi. Il y en a une, c'est drôle, hein, mais enfin, c'est pas drôle. C'est la Corona. Voilà, ça s'invente pas. C'est la capsuleuse Corona. Ah ouais, ouais. Mais qui est super, super efficace et qui est costaud. Et enfin, voilà.
Il y a aussi un moulin de la même marque, le moulin Corona.
Ouais, c'est ça.
Aussi un moulin premier prix, un des premiers trucs à utiliser.
Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, c'est des investissements que tu fais après au fur et à mesure, hein. Tu vois, tu t'améliores en fait à chaque fois un peu ton matériel. Parce que tu dis, bon, bah maintenant j'en ai marre de mal fermer mes bouteilles avec mon truc papillon.
Après, moi je pense qu'il y a un truc avec lequel il ne faut pas déconner, c'est vraiment le nettoyage.
Oui,
tout
à fait. Alors, on a passé le côté, la partie ébullition sur le process avant. Et effectivement, le nettoyage, et alors ça, tous les brasseurs le diront, c'est un truc qui peut te péter ta bière, quoi. Si ton matériel n'est pas propre à la fin, surtout à la fin, hein, c'est important d'avoir tout propre au début, mais après l'ébullition, il faut que ce soit propre de chez propre, quoi. Alors, tu as des produits qui existent, sans rinçage, etc., mais il ne faut pas que tu aies de bactéries bactéries non désirées qui débarquent, quoi. Parce que sinon, bah voilà, tu vas avoir une infection en fait dans ta bière, et là, ça risque de tout casser, quoi. Le saut de fermentation, mais aussi le alors pas ton houblon de dry hopping, mais ça peut être la cuillère que tu vas utiliser pour un moment mettre ton houblon à l'intérieur pour ton dry hopping, ou toi. Enfin voilà, ça peut être plein de petits trucs comme ça dont on pense pas vraiment, mais c'est un moment où il faut que ce soit propre nickel comme dans un labo, quoi.
Sur les cuves de fermentation, toi tu utilises des seaux ou t'es passé à de la cuve inox?
Alors non, j'aimerais beaucoup passer à la cuve inox. C'est du seau que j'essaye de faire un peu tourner parce que je trouve que voilà, ça prend l'odeur à un moment au bout de certains brassins. Pour l'instant ça fonctionne bien parce que je me suis du coup installé une chambre où je peux gérer le chaud et le froid pour mes fermentations hautes ou mes fermentations basses. Donc j'ai un vieux frigo, hein, comme on en voit beaucoup sur les forums, etc. Un vieux frigo avec un thermomètre. Donc moi j'ai un Ingbird qui permet de lancer la chaleur quand il fait trop froid et de lancer en fait le frigo quand c'est trop chaud, pour garder en fait dans mes bonnes températures. Et donc j'ai un tapis chauffant que je mets sous ma cuve pour pouvoir augmenter tranquillement ma température et être à bonne température pour que mes levures fonctionnent.
Les levures, elles ont des plages de température sur lesquelles elles doivent travailler.
Il y a un adage, hein, de brasseur qui est l'été brasse qui peut et l'hiver brasse qui veut, parce que l'hiver c'est plus simple, ou c'était plus simple en tout cas, d'avoir une température stable. Voilà, on savait qu'il faisait froid dans la cave, il faisait 12 degrés tout le temps. En été, ben les choses sont un peu plus un peu moins stable. Pour le brasseur amateur, au début, c'est un peu ça. S'il veut avoir une température stable, bah, parfois, il va l'avoir sa cuve de fermentation dans son salon, parce qu'il sait qu'à cette période-là, il a du 20 degrés tout le temps. Enfin, voilà. Mais voilà, très vite, moi, j'ai essayé de passer sur un truc un peu moins envahissant en termes d'espace vital pour la famille. Voilà, la solution du vieux frigo est très bonne aussi à ce niveau-là, quoi. Et ça me permet aussi de tester, tu vois, différentes levures, et de pas me dire merde, je peux pas essayer ça parce que j'ai pas les bonnes températures, quoi, chez moi, c'est trop fluctuant dans la journée, ou
Benoît.
Je sais pas, moi je commençais un peu à me dessécher, donc je me demandais, est-ce que tu avais éventuellement, Yann, une bière que tu avais brassée sous la main et que tu puisses un peu nous la faire découvrir de manière auditive, hein, malheureusement.
Bien sûr. Alors je finis juste le dernier schluck de bon vœu que je viens de finir, je le verse ce midi. Ah, est-ce que vous avez entendu?
Donc toi, tu ouvres des bouteilles à midi pour les finir le soir?
Ouais, c'était une 75. Ans. Alors moi, j'ai, je suis désolé, on est à distance, hein, donc je vais pas pouvoir vous la faire goûter. Une Smash que j'ai brassée l'été dernier avec du Barbe Rouge. C'est pour moi, c'est une bière de soif. C'est une Pale Ale. J'ai utilisé que du Pale Ale, du Malt Pale Ale. J'ai testé le houblon Barbe Rouge. Je sais pas si vous connaissez.
Ouais,
donc
ouais,
c'est un houblon assez récent, alsacien.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Elle est très levurée. Je pense que j'aurais pu faire un bon cold crash, que les levures en fait se tassent et qu'on puisse bien filtrer en fait la bière. Elle est encore assez présente à l'odeur. Pas grave. Elle est buvable. Elle mousse bien. Elle a une couleur alors un peu dorée, un peu cidre. Je sais pas si vous voyez un peu cette couleur.
Non, on voit rien du tout.
Non, mais tu t'imagines, tu vois le cidre à quoi ça ressemble.
Le mec, il a oublié qu'il avait pas mis sa webcam.
Non, mais tu vois, non, mais j'ai l'impression d'être avec... Quand j'écoute votre podcast, hein, j'ai l'impression d'être avec vous. Et quand tu racontes une connerie, j'ai l'impression d'être au Café des Sports en train de discuter avec vous, quoi.
C'est mignon.
Et du coup, plutôt cidre brut ou cidre doux?
Alors là, je ne suis pas encore là.
Cidre et moustache.
Cidre et moustache, c'est ça.
Bientôt dans vos oreilles.
Alors, le Barbe Rouge, je trouve qu'ils ont super bien trouvé le nom, parce que c'est du fruit rouge. Moi, je ressens des choses de groseille, un tout petit peu de framboise, un peu fruit des bois aussi. Si tu aimes les fruits rouges, il faut que tu brasses un truc avec du Barbe Rouge, quoi.
D'ailleurs, Yann, elle a un nom, cette bière?
Alors, cette bière, ouais, elle a un nom. Alors ça fait partie aussi des choses, ça c'est mon petit plaisir. Et j'invite tous les brasseurs amateurs à faire la même chose, c'est de faire mes étiquettes et de trouver un nom à la bière. Je trouve que c'est un peu la cerise on the cake. Donc celle-là, elle s'appelle Something in the Water,
okay,
qui est une
cool
expression américaine que j'ai découvert, hein, par un ancien collègue, un peu musicien, qui m'avait fait écouter une chanson comme ça. Donc c'est une expression qui dit, en gros, il y a un truc dans l'eau, ils sont très forts dans cette région, parce qu'il y a un truc dans l'eau.
Tu confonds pas avec Smoke on the Water plutôt?
Non, enfin, non, je... ça, oui, c'est, ouais, ça c'est une autre histoire. Je vous le raconterai dans un épisode de Musique et Moustache. Et donc, en fait, l'idée, c'est que la bière, c'est de l'eau avec un petit peu quelque chose dedans.
Et t'es à combien en termes de degrés ?
On est à 4, 5. C'est un truc qui se boit super simplement, super facilement. Mes enfants adorent. Non, je déconne.
Non, non, c'est justement, un truc qui chercher une recette pour ma fille.
Super simplement et c'est rafraîchissant. Ça fait le taf après la tondeuse.
Mais donc, tu l'as ouverte, là ?
Ouais, bah j'ai déjà bu la moitié là.
Ah voilà, ça c'est bon ça.
Ouais, je l'ai ouvert. Non mais comme je disais, en fait, quand je parlais du houblon, j'étais en train de sentir aussi. Et là, moi, j'ai un petit peu d'amertume et j'ai surtout du fruit rouge quoi. Alors j'en ai peut-être mis un peu beaucoup parce que ça sent beaucoup à l'odeur notamment. Quand on dit bière aux fruits rouges, voilà, on a tous bu, c'est les Crick cerises, voilà, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas du tout dans cette gamme-là que ça joue.
Ouais, c'est quelque chose de plus subtil. Ouais. J'avais une fois goûté justement une bière brassée avec ce houblon, et moi j'avais trouvé un peu de fraise comme ça, mais c'est vrai que c'est très subtil.
Bon, bah ça donne envie, c'est très frustrant. D'entendre et de pas pouvoir goûter.
D'ailleurs, moi aussi, je vais m'ouvrir une bière parce que je veux pas m'assécher.
Ouais, ça serait dommage, hein, faut pas jouer avec ça.
Je m'ouvre aussi une bière que j'ai brassée. Alors, moi, je suis très loin de Yann parce que moi, je pourrais pas dire quel degré elle fait, j'ai pas de recette.
T'as mis une photo sur Instagram, je crois. Bah, franchement, je l'ai trouvée magnifique.
Je pourrais l'appeler ma cuvée Racing Club de Strasbourg. Autour du stade, il y a du houblon sauvage.
Ah, intéressant.
Trop ouais. Cool.
Et du coup, je m'étais dit, tiens, je vais aller cueillir ce houblon sauvage et puis je verrai bien ce que ça donne. Pour le coup, je suis agréablement surpris du résultat. C'est rien de dingue, hein. C'est une bière assez classique et elle est plutôt bonne. Après, le problème, c'est que je pourrais jamais refaire la recette parce que j'ai rien noté, j'ai fait que 5 litres, c'était vraiment pour me réhabituer à brasser. Voilà. Ça fait partie de ces brassins un peu à l'arrache sur des petites quantités qu'on fait avec 3 casseroles.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait.
Du coup, Yann, si on doit un peu récapituler le brassage.
Sur les parties matos, casserole, on a un peu de matériel de cuisine. Pensez au kit si vous voulez vous lancer. Ça peut être une bonne première étape parce qu'il y a aussi Damjan, il y a encapsuleuses, etc. qui sont souvent fournies pour le premier kit. Il y a effectivement aussi après les seaux de fermentation qu'il faut prévoir et les seaux qui vont permettre de faire les différents transferts. Il y a les cuves électriques. Vous retrouverez sur les sites sur Brasseur Amateur, sur Telbock, etc. différentes étapes. Après, je parlais du bouquin Je réussis ma bière, qui est vraiment un bon bouquin, une bonne base francophone en tout cas, trouvable à peu près n'importe où. Oui, je pense. Alors c'est aux éditions Ouest France, mais c'est aussi disponible dans l'Est. Il y a How to Brew de John Palmer, qui est la bible, mais qui est en anglais. Après, il faut connaître ce qu'on veut faire, qu'on ait une idée déjà de ce qu'on veut brasser. Ça peut être vraiment aussi une première approche, quoi, de dire moi j'ai envie d'arriver à faire une stout, une Milky Way stout IPA. Voilà, ça peut être aussi un objectif à un moment quand tu brasses. Il y a quelques fournisseurs aussi sympas à connaître. Enfin, là où moi je me fournis, il y a Rolling Beers qui sont du côté de Montpellier, qui sont super efficaces en termes de délai, en termes de disponibilité des choses, en termes de service après-vente. Il y a Brewland. Il y a Brown Market pour les Alsaciens. Il y a aussi le comptoir du brasseur à Colmar, qui peut être aussi une entrée assez intéressante parce que ils ont aussi une boutique physique, ce qui permet un peu d'échanger, notamment avec Cédric qui est le gérant du lieu. Ça peut être intéressant pour les gens qui sont dans la région. Moi, j'invite aussi tous ceux qui ont envie. Alors déjà, tous les amateurs de bière, pour moi, devraient soit visiter une brasserie, soit brasser une bière pour comprendre et pour avoir une certaine humilité aussi sur ce qu'est la bière et comment ça se fait, pour comprendre, pour apprendre aussi un peu plus sur la bière.
Et lire ton blog.
Et lire mon blog.
Je pense qu'on peut quand même un petit peu en parler. Non seulement on peut t'écouter, mais on peut aussi te lire.
Oui, tout à fait. On peut me lire depuis quelques temps maintenant, un peu plus de 2 ans, je crois. Le créateur et rédacteur du blog Le Sous-Boc. Et c'est par là aussi qu'on se connaît.
Tout à fait.
J'ai le grand plaisir de vous connaître.
Tu es l'évangéliste de la bière sous Strasbourg, je crois qu'on peut le dire.
Oh, ça c'est beaucoup dit, mais d'accord, merci.
Est-ce que l'envie d'écrire ton blog est venue de l'atelier brassage que tu as fait avec tes potes ou t'écrivais déjà avant ?
Alors c'est venu un peu après. En gros, j'ai fait cet atelier, on a brassé, je me suis intéressé de plus en plus à la bière artisanale. Et il y a quelques années, j'ai changé de taf. Dans mon taf précédent, j'écrivais beaucoup. Voilà, dans le numérique, voilà, je faisais pas mal de création de contenu et c'est quelque chose qui me manquait. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire en fait sur ma passion qui est la bière. Voilà, je maîtrise à peu près les réseaux sociaux, je maîtrise à peu près tout ce qui est blog et site internet.
Plus que ça, c'est ton métier.
C'est mon métier, oui, tout à fait. Et voilà, pourquoi pas mettre mes connaissances à profit aussi de ma passion pour propager la bonne parole de la bière artisanale. Et puis voilà, je me suis un peu lancé sans objectif, ce qui permet de les atteindre assez facilement.
On sait de quoi tu parles.
Ouais, et puis au final, voilà, j'ai beaucoup de bonnes surprises, des super liens qui se tissent. Enfin voilà, vous en faites partie effectivement. On s'est déjà croisé quelques fois avec d'autres aussi sur Strasbourg. Enfin là, on a déjà eu quelques expériences assez sympa. Je tisse un peu ma toile et c'est super agréable de visiter voilà, des brasseries, de croiser des gens qui ont un peu la même passion, de faire découvrir à d'autres, de partager un peu ces belles découvertes voilà, en soirée de dégustation ou autour d'un verre tout simplement. Quoi.
C'est un milieu qui est plutôt bienveillant. On rencontre assez facilement des gens. On a pas mal de partage de savoir, d'expérience, ce genre de choses. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut aussi inciter les gens, comme tu disais avant, à aller voir les brasseurs qu'ils ont dans leur entourage et pourquoi pas justement des brasseurs qui parfois vont développer des ateliers de brassage qui peut être vraiment un premier pas pour avoir une Absolument, première expérience ouais. un peu encadrée et un peu carrée du brassage pour être peut-être moins perdu le jour où on veut se lancer
ça ouais, à la tout maison. À fait, tout à fait. Ouais, c'est clair, j'ai eu le cas de copains qui ont démarré sur un kit. Voilà, ils m'appelaient en panique parce que voilà, ils étaient face à leur casserole dans la cuisine, qu'est-ce que je fais là? Et eux, ils ont un manuel de suivi qui est plus ou moins bien fait selon les kits, etc. Ça peut vite tourner à la catastrophe, mais voilà, le formateur, je pense vraiment que c'est l'atelier de brassage. Forcément, c'est un peu plus cher, hein, mais c'est un bel investissement et ça peut être, voilà, ça peut être un cadeau comme nous, ça l'a été. Enfin, j'encourage vraiment les gens à aller dans ce sens-là. Alors, dans la région, je sais pas vraiment, j'en connais peu des ateliers de brassage, c'est que la brasserie Saint-Pierre en fait. D'autres, je ne saurais pas dire, je crois qu'il y a le nouveau bar, le nouveau restaurant, le Météor qui a prévu d'en faire à Strasbourg.
Je crois que c'est quelque chose ouais, qui n'est pas encore très développé dans la région.
Avis aux amateurs. Hein.
Après, je pense que c'est comme partout. Il va forcément y avoir quelqu'un qui va se lancer sur Strasbourg,
ouais,
j'espère.
Ouais. Il y a une association qui est à Strasbourg. Alors, je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est Brassage et Partage.
Ça me dit quelque chose.
Brassin ouais. collectif. Si je vais essayer de retrouver des références, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais. Ou alors trouvez-vous un copain qui brasse déjà à la maison et puis faites un brassin avec lui quoi. J'ai deux copains comme ça qui autour de rôle on a brassé ensemble et puis aujourd'hui ben ils volent de leurs propres ailes tu vois.
Tu vois évangéliste.
Et je m'y connais en église attention.
C'est vrai en plus c'est vrai.
Et du coup, est-ce que vous auriez des recommandations pour occuper un peu le temps libre pendant ce confinement?
Genre une bonne série, Yann.
Ou des choses à éviter, ouais.
Alors, buvez de la bière, lisez des livres, lâchez Facebook.
Bonne idée.
On enregistre cet épisode à Pâques hein, pour les auditeurs.
Ne dévoile pas tous les secrets.
Non, mais il y a quelques jours est sortie la série que tous les beer geeks, tous les amateurs de bière attendaient sur Netflix, qui est Bruce Brothers. Et en fait, n'y allez pas, quoi. C'est...
Pour faire une analogie footballistique, c'est un pétard mouillé.
Voilà, je connais pas trop le foot, mais voilà, c'est ça. En gros,
moi non plus. Et ça s'entend.
On dit ça dans le foot?
Pas du tout.
C'est un coup de pétard dans l'eau.
Ah, c'est nul.
Et si, quand un mec, genre, il essaie de... Tu sens qu'il a fait une grosse frappe et d'un
non,
coup, pouf,
non,
pétard
non,
mouillé. Non, bon,
non, c'est plutôt, il a voulu tuer un pigeon, tu vois, parce qu'elle part au-dessus, mais...
Jamais entendu cette expression. Je crois que tu regardes pas les bons matchs, toi. C'est le championnat anglais, ça.
Arrête, c'est eux qui ont créé le football, c'est les meilleurs. Bref.
Il y a cette fameuse série Bruce Brothers qui est un peu un pétard mouillé. Hein
oh là là, j'ai envie de partir, sans déconner.
Non, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais.
Non, c'est très mauvais. Tu l'as regardé en entier ou pas?
Alors, je ne l'ai pas regardé en entier, j'ai regardé quand même quelques épisodes parce que j'ai une conscience professionnelle. En gros, je m'attendais un peu à The Office, à des choses un peu.
Yann, rien n'atteindra The Office.
Ouais, mais je pensais qu'on allait un peu aller sur cette pente-là, tu vois. Et en fait, pas du tout. C'est pipi caca, c'est bite cul vagin, c'est vomi, enfin, c'est c'est vraiment pas bon, quoi. Voilà. Et alors, sur Instagram ou sur Twitter, j'ai un peu essayé de sonder ce que les autres en avaient ressenti. Je me suis dit, peut-être que si ça se trouve, moi, enfin, je suis pas du tout ouvert à ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est général. J'ai eu que des commentaires absolument assassins sur cette série-là, quoi.
Je vais essayer cette série. Je vais quand même regarder 2 épisodes. Pareil, j'étais quand même un petit peu hypé par le truc.
Ouais, ouais.
J'avais complètement oublié la sortie. Je regarde d'autres trucs en ce moment, donc du tout, ouais. Du coup, j'étais pas du tout sur Netflix. Et bon, les avis que t'as postés m'ont vachement refroidi, quoi. Déçu.
Pour être honnête, moi, je l'ai regardé entièrement. Les épisodes sont courts, il y en a pas des masses, mais c'est globalement, effectivement, mauvais.
C'est combien de minutes, hein? Tu te souviens? 20
non,
minutes?
Je dirais une vingtaine de minutes.
Ouais, c'est ça.
C'est le bon format pour les séries comiques, d'habitude. Mais bon, si vous me dites que c'est pipi caca, effectivement, tu tournes vite en rond, quoi.
Bah après, il y a du pipi caca qui peut être bien fait, tu vois. Mais là, c'est...
Tu nous donneras tes références un autre jour, Benoît, hein?
Non, mais les
restons professionnels deux minutes encore.
Ouais, bah, regarde, les nuls.
Les nuls, c'est pipi caca, mais c'est drôle.
Non,
quoi.
Ça, c'est la nostalgie. Je suis désolé, hein, vous le regardez maintenant, ça vous fait beaucoup moins rire.
Ah, moi, je suis sûr qu'Histoire du Tampax.
Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo?
Non, mais la mouche qui pète.
Ouais, non, franchement, enfin, je suis sûr, les gars, que
Mizou,
si...
Mizou.
Non, moi, je suis sûr vraiment que si vous le regardiez maintenant pour la première fois, vous trouvez ça nul. Là, il y a un côté nostalgie parce qu'on aime tous Shabba, Farrugia, Lobby et Carette, mais bon, au bout d'un moment. Bref, ça c'est mon côté.
Tu veux dire, ça serait comme les sketchs racistes des Inconnus?
Exactement. Les Inconnus, ça me fait plus autant rire. Ça me fait plus autant. Après, je regarde toujours Les Trois Frères avec plaisir.
Ah ouais, quand même.
Ouais, si. Si, si. J'en ai bouffé à mort et je suis toujours aussi fan. Mais pareil pour La Cité de la Peur, tu vois. Mais parce qu'il y a un vrai côté nostalgie et ça nous renvoie à.
Je pense 90, que pour le coup, La Cité de la Peur est bien meilleure que Les Trois Frères.
Ah bah, ça n'a rien à voir, moi, je pense.
Pas, je suis pas du tout d'accord. Il y a une dimension dramatique que vous avez pas dû saisir. Et je peux continuer comme ça des heures, hein, sans déconner. Je le mets au Panthéon avec La Cité de la Peur, ou SS-117, et d'autres trucs qui me viennent pas, mais je trouve que c'est un très très bon film.
Et La Soupe aux Choux.
Le Panthéon des films oubliés.
Ah, je déteste La Soupe aux Choux. Mais vous m'avez fait louper, comment il s'appelle
La Folie des Grandeurs.
La Folie des Grandeurs, ce soir. je vous jure, j'adore. Bref.
Moi, je suis hermétique à De Funès, donc...
Tu mourras dévoré par les flammes.
C'est tout ce que je me souhaite.
S'il y a des merguez à côté, ça me va. Comment on conclut?
J'espère qu'on aura un peu démystifié le brassage et rendu ça un peu plus accessible.
Alors, je voulais vous remercier aussi pour votre invitation. Alors, je tiens à préciser qu'à la base, on était censé se voir en vrai.
Oui.
Autour d'une Ghost in the Machine.
Oui.
Alors j'espère qu'on va pouvoir un jour prochain réenregistrer face au succès de cet épisode autour d'une bière quand même.
Très bel esprit.
Bah, j'ai hésité ce soir à en boire une pendant l'enregistrement. J'ai dit je vais pas leur faire.
Ce serait salaud.
Et de toute façon j'en garde une au frigo pour toi Yann. Ça c'est.
Ouais, faut pas la garder trop longtemps je pense non plus. Hein.
Ça va dépendre du confinement. J'attends j'attends la locution de notre président lundi soir pour savoir si je la bois ou pas.
Ouais. Ou si je me taillade les veines avec la canette.
Ou sinon je fais un colis tu vois, je te l'envoie tant pis.
C'est ça. Et tiens Julien, tu nous as même pas parlé de ta bière en fait.
Écoute, c'est écrit en flamand. Est-ce que je vais vraiment me lancer là-dedans? Vous êtes prêts? Alors moi, ce soir, j'ai bu en vous écoutant et en parlant avec vous, j'ai bu une stout, enfin un stout, pardon. C'est alors la brasserie, c'est De Dorter van de Korenar. Hein, c'est une brasserie flamande, comme vous l'aurez tous compris. Et le nom de la bière, c'est Embrasse. Voilà. À vos réactions, ça a l'air de vous parler.
Tout un programme.
Non, mais rien.
Non, mais vraiment. Enfin, ça, si tu gardes ça, Benoît, je te défonce.
Je suis tranquille. Le temps que le déconfinement soit levé, j'aurai eu le temps de faire de la muscu.
Qu'est-ce qu'on peut encore dire
je pense qu'on peut remercier Yann d'avoir répondu à l'invitation et comme dit voilà aussi un peu déçu de pas pouvoir avoir partagé ce moment en live avec toi, mais je dirais c'est une autre façon, le confinement nous force aussi à partir sur d'autres moyens de partage et puis cet enregistrement même s'il est à distance aura quand même été un bon moment à tes côtés.
Tout à fait.
Absolument.
C'était très sympa, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis c'était bien cool quand même, même si effectivement ça vaut pas le fait de partager une bière tous les trois.
Nos retrouvailles n'en seront que meilleures.
Voilà, exactement. Ce ne sera que partie remise. Exactement. Ce n'est que partie remise.
Et on connaît les bonnes adresses dans la région, donc on saura où se retrouver.
Bon, on sait où toi te retrouver, parce que t'es toujours au même endroit, donc c'est plutôt facile.
Okay. De toute façon, au pire, on te suit sur les réseaux sociaux.
Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux. Je poste tellement de choses. Je prends des kilos à suivre les stories de Benoît, autant je vous invite à prendre une bonne cuite en regardant mes photos Instagram.
Qui donne toujours très envie.
Bon, merci.
Autant que la bouffe de Benoît d'ailleurs.
Enfin, arrêtez, c'est mon compte masqué ensemble. Celui-là.
Ah pardon, oui c'est vrai, putain.
Sinon, pourquoi je vais passer entre un compte où il y a de la bière et un compte où il y a de la bouffe?
Et encore, ils connaissent pas le troisième. Je préfère pas trop en dire.
Ça c'est un compte privé.
On est que deux dessus,
compte,
je trouve ça
c'est
assez gênant.
C'est le compte des expressions footballistiques.
Ah non, c'est pire. Crois-moi, c'est pire.
Crois-moi que sur ce compte-là, il n'est pas question de pétard mouillé.
D'ailleurs, juste... au sujet de séries qui parlent de foot, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment Sunderland Till I Die sur Netflix, qui est une immersion dans un club historique d'Angleterre qui est Sunderland. Même si vous n'aimez pas le foot, c'est vraiment à voir.
C'est celui qui a joué dans 24 heures chrono, c'est ça?
Pardon?
Kiefer Sunderland, non?
Non. Oh putain. Mon cœur de supporter saigne.
Ah mais c'est bien, il a compris un peu la... la mécanique du podcast.
Quelle tristesse.
En tout cas, merci les gars. Et puis,
merci à vous.
À bientôt.
Et allez. Puis, enlève ta moustache. Hein.
Moi, je l'ai fait. Hein. Moi, je me suis rasé. Hein.
Enlève ta moustache. J'ai explosé de rire.